J'aimerais aujourd'hui lire et commenter le Koan 37 du Mumonkan, le chêne de Jorshu. Ce Koan est très court et se lit comme suit. Un moine demanda à Jorshu, « Quel est le sens de la venue en Chine de Bodhidharma ?» Jorshu répondit, « Le chêne dans le jardin. » Cette version particulière du Koan est celle qui a été adoptée par le maître Mumon dans le Mumonkan, la collection de 48 Koans qu'il destinait à la formation de ses étudiants. Une version plus longue existe toutefois. Elle est citée dans le livre « The Recorded Sayings of Zen Master Jorshu ». Dans cette deuxième version, après que Jorshu eut répondu « Le chêne dans le jardin », le moine poursuit en disant « Je vous prie de ne pas me répondre en faisant référence à des choses extérieures. » Jorshu répondit « Je ne fais pas référence à des choses extérieures. » Le moine dit à nouveau « Quel est le sens de la venue en Chine de Bodhidharma ?» Et maître Jorshu répondit à nouveau, le chêne dans le jardin. Dans cette deuxième version, Jorshu donne la même réponse, le chêne dans le jardin. Mais il le fait cette fois après avoir précisé qu'il ne fait pas référence à une chose extérieure. Comment cela est-il possible? Nous y reviendrons plus loin, mais j'aimerais pour l'instant dire quelques mots au sujet de maître Jorshu, et aussi parler de la question que lui pose le moine. Quel est le sens de la venue en Chine de Bodhidharma? Jorshu est sûrement l'un des plus grands maîtres du Zen. Né dans le nord de la Chine en 778, il vécut, dit-on, jusqu'à l'âge de 120 ans et mourut en 897. Alors qu'il était encore un jeune moine, il parcourut la Chine du nord au sud afin de trouver un maître zen. Il rencontra un jour Nansen, l'un des successeurs du célèbre maître Matsu, et la première rencontre entre Nansen et Jorshu est relatée dans le Koan 19 du Mumonkan. L'esprit ordinaire, c'est la voix. Jorshu resta auprès de Nansen pendant 40 ans, jusqu'à la mort de ce dernier en l'an 835. Jorshu avait alors 57 ans. Après un deuil de 3 ans, il quitta le monastère de son défunt maître et entreprit un pèlerinage de 20 ans qui l'amena à parcourir toute la Chine afin de rencontrer d'autres maîtres zen et approfondir auprès d'eux son propre éveil. À l'âge de 80 ans, il s'établit enfin dans un temple laissé à l'abandon dans le nord de la Chine et pratiqua le zen pendant les 20 dernières années de sa vie auprès des quelques moines qui s'étaient regroupés auprès de lui. Jorshu n'a laissé aucun successeur et sa lignée s'est éteinte peu après lui. Le Koan que nous étudions aujourd'hui date de cette dernière époque de la vie de Jorshu. Dans ce Koan, le moine demande « Quel est le sens de la venue en Chine de Bodhidharma ?» Bodhidharma, comme vous le savez tous, est le premier patriarche du Zen en Chine. Venu de l'Inde au VIe siècle, il rejeta toutes les approches classiques du Zen qui avaient alors cours dans ce pays. Et il médita pendant 9 ans. Face au mur d'une grotte, insistant par là même sur la nécessité d'une pratique soutenue et constante du zazen, plutôt que sur la seule étude des textes pour s'éveiller à sa propre nature. Quel est le sens de sa venue en Chine? Cette question est l'une des questions ritualisées du zen. Une autre est « Qu'est-ce que le Bouddha ? » Ces questions sont présentes dans de nombreux koans. Elles ont été forgées par la tradition du Zen et elles recouvrent d'autres questions qui restent, pour ainsi dire, silencieuses. Ici, le moine demande « Quel est le sens de la venue en Chine de Bodhidharma ?» Ce que l'on peut traduire par « Pourquoi pratique-t-on le Zen ? Quel est le sens de la pratique ?» Ou encore « Quelle est l'essence du Zen ?» Ce sont là des questions que l'on doit se poser si l'on pratique sincèrement. Ne pas faire l'erreur de croire que l'on sait une fois pour toutes pourquoi l'on pratique. Accepter avec humilité et compassion vers soi-même de se redire « Qu'est-ce qui m'amène vraiment à la pratique? Pourquoi suis-je ici? D'où tout cela vient-il? » Dans l'obscurité sans doute glaciale d'un temple en ruine du nord de la Chine au IXe siècle, voilà ce que le moine demande à Joshua, qui est un maître zen, profondément éveillé. Il faut aussi entendre dans cette question la soif authentique de vérité qui anime le moine. Il ne pose pas cette question à la légère. Lorsque Joshua lui répond « le chêne dans le jardin », le moine se permet même de dire « je vous en prie, ne me répondez pas de cette manière » en faisant référence à des choses extérieures. Son questionnement est sincère et ne lui laisse aucun repos. La soif de vérité qui l'anime l'empêche de se satisfaire de la première réponse qu'on lui donne. Il cherche le cœur du zen. Il veut saisir le pourquoi de sa pratique. Il doute de lui-même et de ce qu'il fait. Son cœur n'est pas tranquille et il questionne son maître afin d'apaiser son esprit. Avec insistance, il demande à nouveau « Quel est le sens de la venue en Chine de Bodhidharma ?» Et à nouveau, Joshua lui répond « Le chêne dans le jardin. » Il est intéressant de noter que dans la version originale de ce koan, qui a été initialement écrit en langue chinoise, Joshua ne parle pas d'un chêne dans le jardin, mais plutôt d'un genévrier. Le chêne, semble-t-il, est apparu lorsque le koan a été traduit en langue japonaise. À la question du moine, Joshua aurait donc répondu « le genévrier dans le jardin ». Un maître fit remarquer que le genévrier est un arbre qui ne peut être utilisé ni en construction, ni d'aucune autre manière vraiment utile, et que cette inutilité elle-même ajoute une profondeur de sens à la réponse de Joshua. Comme s'il avait répondu au moine qu'il questionnait quant au sens de la pratique, l'arbre inutile dans le jardin. Bodhidharma souhaitait-il vraiment transmettre quelque chose en accomplissant son périlleux voyage jusqu'en Chine? Nous pouvons maintenant entrer dans le koan. Le moine ne comprend pas la réponse que lui donne Joshua, car pour lui, le chêne appartient au monde extérieur. Le chêne est là-bas, dans le jardin, et le jardin lui-même est à l'extérieur, dans le monde. Comment pourrait-on y trouver la moindre vérité? La vie spirituelle est souvent vue comme une vie à l'extérieur du monde. L'on croit alors que la vérité que l'on cherche se trouve ailleurs, en marge du monde, pour ainsi dire, et qu'il est impossible de la trouver dans la vie quotidienne. L'on croit que le chemin à suivre consiste à laisser derrière soi cette vie quotidienne remplie de doutes, de contradictions et de difficultés, pour se consacrer seulement à la recherche de ce que l'on appelle les vérités spirituelles. Ces vérités sont éternelles, croit-on, et elles échappent à l'impermanence de tout ce qui constitue notre vie quotidienne. Elles sont absolues, inaltérables, immatérielles. Elles appartiennent au royaume de Dieu, comme on le dit parfois. Le moine demande, quelle est la vérité essentielle du zen? Voilà ce qu'il cherche. Une vérité absolue et inébranlable qui viendra apaiser son cœur et son esprit. Comment pourrait-il jamais la trouver dans le chêne qui se trouve dans le jardin? Pourquoi son maître lui répond-il de cette manière, en se référant à des choses extérieures? Un maître a déjà dit de ce koan qu'il travaille comme un voleur qui vous dérobe tous vos biens. Pour y pénétrer, l'on doit tout laisser derrière soi. On doit y entrer les mains vides. Ce koan nous invite à la plus grande pauvreté. Il nous invite à quitter la cage de nos connaissances et à sortir à l'air libre, là où les réponses toutes faites nous manquent, là où l'on doit d'abord dire « je ne sais pas ». Il faut, par exemple, laisser derrière soi toutes les distinctions que l'on peut faire entre monde intérieur et monde extérieur. Lorsque l'on regarde le chêne dans le jardin, ne dit-on pas qu'il se trouve à l'extérieur de nous? Le monde est là quelque part et je suis ici. Nous sommes bien séparés l'un de l'autre, non? Tout le monde le croit. Et c'est là le cœur même de notre pensée dualiste habituelle. Mais dites-moi, où le monde commence-t-il et où finissez-vous? Par exemple, lorsque l'on entend chanter un oiseau, où est l'oiseau et où êtes-vous? L'on dit par exemple que l'oiseau est à l'extérieur, sur la branche d'un arbre peut-être, et que je suis ici, dans ce zendo. Le chant de l'oiseau vient vers moi, pour ainsi dire. Il voyage jusqu'à moi. Mon oreille en capte les vibrations dans l'air, et mon cerveau les interprète. Dans tout ceci, l'on perd cependant de vue que le chant de l'oiseau, c'est déjà entendre, et qu'entre les deux, il n'y a aucun « je » qui entend. L'expérience est immédiate, sans intermédiaire. Mais on ne le voit pas, on l'ignore. Toute la dimension subjective de l'expérience est ignorée. Et de cette ignorance naît un monde où tout est séparé de tout. Un monde où les oiseaux sont là-bas et nous, ici. Lorsque le moine voit le chêne dans le jardin, il s'en croit séparé. Il ne voit pas que le chêne dans le jardin, c'est déjà voir, et qu'entre lui et le chêne, il n'y a aucune séparation. C'est pourquoi lorsqu'il dit à Joshua, « Je vous en prie, ne me répondez pas de cette manière, en faisant référence à des choses extérieures. » Ce dernier lui répond, « Je ne fais pas référence à des choses extérieures. » Le maître Huineng a dit un jour qu'aucune chose n'est. Le mondo suivant le dit avec d'autres mots. Un moine demanda à Joshua, « La lune solitaire est dans le ciel. D'où vient sa lumière? » Joshua lui répondit, « D'où la lune elle-même vient-elle? » Dans son commentaire du Genjo Koan de Maître Dogen, M. Lou écrit, je cite, « Dire qu'aucune chose n'existe signifie que nous ne considérons plus les choses comme si elles étaient séparées de notre perception ou comme si elles existaient en dehors de celle-ci. Les choses n'ont plus alors aucune existence séparée. » Et il poursuit en disant, « Dans notre confusion, nous voyons les choses comme étant séparées de nous, là-bas. En d'autres mots, nous nous tenons en dehors des choses. Lorsque, par exemple, nous quittons une pièce, nous croyons que la pièce reste telle qu'elle était lorsque nous nous y trouvions. Fin de citation. Nous oublions que nous emportons avec nous, dans nos souvenirs, nos pensées, nos impressions, dans toute la totalité de notre expérience, la pièce où nous nous trouvions. Nous ne pourrons jamais plus la trouver en dehors de nous. Elle repose dans notre mémoire. Nous ne vivons pas dans le monde, une sorte de monde anonyme où nous ne serions que de passage. Non, nous vivons seulement et toujours dans un monde. Et ce monde est celui de la totalité de notre expérience. Comment pourrions-nous jamais le quitter ou le laisser derrière nous? Mais le moine qui visite Maître Joshua ne le sait pas encore. Pour entrer dans le Koan, il faut aussi laisser derrière nous notre conception habituelle du langage, qui nous porte si facilement à croire que les mots sont les choses. Les mots sont magiques. Ils créent un monde à part entière. Et dans ce monde, les choses nommées sont immuables, solides. Elles semblent immobiles, presque éternelles. Dans ce monde des choses nommées, une table est toujours une table, une main, toujours une main, un chêne, toujours un chêne. Les choses nommées ont quelque chose d'absolu. Même le mot impermanence semble nommer quelque chose. Les mots figent une réalité qui s'écoule sans cesse. Et il crée l'illusion d'un monde stable, ordonné, un monde qui échappe au désordre et à l'incertitude. N'est-ce pas là ce que cherche le moine lorsqu'il demande « Quel est le sens de la venue en Chine de Bodhidharma ?» Il cherche quelque chose qui échappe à l'impermanence, quelque chose qui serait éternel, une sorte de monde à jamais immobile, qui selon lui serait un monde idéal, un monde où il n'y a aucune souffrance et où n'existent plus les indécisions et les contradictions de la vie quotidienne. Cependant, un tel monde, s'il existait, serait un monde sans vie. Et c'est pourtant ce genre de monde idéal que tant de religions appellent le paradis. Mais vous savez bien que les paradis n'existent pas et que les mots ne sont pas les choses. Vous pouvez répéter 500 fois le mot « feu » sans jamais vous brûler la langue ou parler du sucre pendant des jours sans jamais en goûter la saveur. Pensez aussi aux belles cartes marines qui décrivent en détail les courants marins dans les océans. Pensez-vous vraiment que vous pourriez y tremper vos pieds? Dans le poème qui suit le Koan, Maître Mumon écrit « Le mot n'exprime pas la chose. La parole ne transmet pas l'esprit. Qui se laisse influencer par le mot se perd. Qui s'attarde dans une phrase s'égare. » Lorsque Joshua dit « le chêne dans le jardin », que dit-il vraiment au jeune moine qui le visite? Lui parle-t-il d'un arbre qui existe sans lui, quelque part dans un jardin zen? Ou lui parle-t-il de lui-même? Quel est le sens de la venue en Chine de Bodhidharma? Pourquoi pratiquons-nous? D'où vient notre pratique? Et Joshua répond, le chêne dans le jardin. Certains ont dit qu'en répondant de cette façon, Joshua veut aider le moine à sortir de sa quête idéaliste d'une sorte de paradis éternel qui se situerait au-delà du monde. Il veut l'aider à redescendre sur terre, pour ainsi dire, et voir ce qui est immédiatement présent, le chêne dans le jardin. Joshua invite le moine à voir que la terre qui nous porte est la terre de pureté, et ce corps même, le corps de Bouddha, comme l'écrira plus tard le maître Aquin dans son chant du Zazen. D'autres commentateurs écrivent qu'en donnant cette réponse, Joshua souhaite bien sûr encourager le moine à voir ce qui est, mais surtout à comprendre que le sens de la venue en Chine de Bodhidharma est d'être un avec ce qui est, ici et maintenant. D'autres auteurs encore expliquent que Maître Joshua veut amener le moine à voir que le chêne dans le jardin interexiste avec tout l'univers, qu'il est un avec tout ce qui est, et que comme tout ce qui est, il s'écoule sans cesse et ne possède aucun soi séparé. Maître Joshua inviterait alors le jeune moine à voir qu'il n'y a aucun chêne dans le chêne, aucun monde dans le monde, aucun jardin, aucun paradis, et personne en nous pour dire « je ». Le moine et le chêne, quoique différents l'un de l'autre, n'ont jamais été séparés l'un de l'autre. Est-ce là le sens de la venue en Chine de Bodhidharma? Est-ce là pourquoi nous pratiquons le Zen? Yasutani Hiroshi, que M. Lo considérait comme son premier maître dans le Zen, a déjà écrit que si Bodhidharma avait apporté quoi que ce soit avec lui en Chine, il n'aurait eu aucune valeur dans l'histoire du Zen. Pourquoi dit-il cela? Un jour, un moine demanda au maître Rinzai, « Quel est le sens de la venue en Chine de Bodhidharma? » Rinzai répondit, « S'il y a le moindre sens, vous ne pourrez jamais vous sauver vous-même. Si, en entendant cela, vous pensez « il n'y a donc aucun sens à la venue en Chine de Bodhidharma », vous n'avez malheureusement pas compris ce que dit Maître Rinzai. Un maître a déjà dit de ce koan qu'il travaille comme un voleur qui vous dérobe tous vos biens. Pour y pénétrer, l'on doit tout laisser derrière soi et y entrer les mains vides. Ce koan nous invite à la plus grande pauvreté. Il nous invite à quitter la cage de nos connaissances et à sortir à l'air libre, là où les réponses toutes faites nous manquent, là où l'on doit d'abord dire « je ne sais pas ». Le maître Bukai, qui fut l'enseignant de Shibayama Roshi, disait « il est écrit dans la Bible, « Bénis soient les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'est aussi l'enseignement essentiel du Zen. Un jour, un moine demanda à Joshua, « Quel est le sens de la venue en Chine de Bodhidharma? » Et Joshua répondit, « Le chêne dans le jardin.